Certains sont considérés comme des cold cases, des affaires non élucidées. D'autres, au contraire, ont connu un épilogue judiciaire. Ce sont les crimes de la route. Leur point commun, tous ont comme décor une route, une autoroute, parfois même un simple parking. Les crimes de la route, épisode 6, le jour où Claude François a échappé à une fusillade près de l'autoroute A6. Au milieu des années 60, Claude François cherche une maison à la campagne où il peut se reposer entre deux tournées. La carrière du chanteur est lancée et il est déjà assailli par des hordes de fans.
Je blague et je te bouscule, je te réveille pas comme d'habitude.
Son choix se porte sur un vieux moulin à l'abri des regards, construit au bord d'une jolie rivière à Dannemois dans l'Essonne. Et c'est justement en direction de Dannemois que le chanteur roule ce samedi soir de 1977. Nous sommes le 25 juin, il est tard. Claude François vient de participer à Numéro 1, le show le plus célèbre du moment, orchestré par le couple star du petit écran, Mariti et Gilbert Carpentier. L'idole des yéyés vient de présenter à la France entière sa nouvelle fiancée, l'américaine Kathleen Jones.
C'est comme ça que l'on sait aimer, oui, c'est comme ça.
À bord de sa Mercedes bleu marine, Claude François et ses quatre passagers rejoignent la porte d'Orléans avant de s'engouffrer sur l'autoroute A6 en direction de l'Essonne. La grosse cylindrée file dans la nuit. Le trafic est fluide à cette heure tardive et le trajet se déroule sans incident particulier. Au bout de 40 minutes, alors que Claude François s'apprête à quitter l'autoroute, il remarque qu'il est suivi par une CX qui le talonne avec insistance, tous phares allumés. La voiture double une première fois, la Mercedes qui s'engage sur la départementale 637 en direction de Fontainebleau. Clo-Clo la dépasse à son tour. Une course-poursuite s'engage jusqu'à la commune de Célie-en-Bière. Claude François et ses amis ne sont plus qu'à quelques minutes du moulin de Dannemois. Leur voiture ralentit pour quitter la départementale 372 qui dessert Milly-la-Forêt et pour s'engager sur la RD 90. C'est alors que la lunette arrière de la Mercedes vole en éclats. L'un des occupants de la CX a ouvert le feu. Un projectile a atteint l'un des pneus. Une autre balle s'est logée dans le tableau de bord. Elle est passée à quelques centimètres de la tête du chanteur. Au total, 7 impacts de balles seront relevés. Alors que s'est-il passé? Qui pouvait bien en vouloir à Claude François? J'ouvre l'enquête avec mon invité, le journaliste Christian Porte. Bonjour Christian Porte.
Bonjour Vincent.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouvel épisode des Crimes de la Route. Vous êtes l'ancien rédacteur en chef adjoint du Républicain de l'Essonne et vous avez enquêté sur de nombreux faits divers qui ont eu lieu dans le département ou aux alentours. Parmi eux, il y a donc celui dont on parle beaucoup en ce début d'été 1977. Un tel fait divers dont la victime n'est autre que Claude François, immense star de la chanson à l'époque. L'affaire a dû faire grand bruit, non?
Oh bah l'affaire a pris grand bruit. Claude François était au summum de sa notoriété. Vous imaginez qu'on puisse essayer de le descendre. La France ne s'en remettrait pas.
On l'a entendu il y a quelques minutes, la scène est particulièrement violente. La voiture de Claude François a reçu pas moins de 7 impacts de balles. Que se passe-t-il dans les minutes qui suivent? Le choc d'abord, j'imagine?
Oui, on sait que cette affaire a commencé, c'est une espèce de courte poursuite qui a commencé sur l'autoroute du Sud. Claude François rentrait d'une émission télévisée, rentrait chez lui dans sa propriété de Dannemois. Et d'un seul coup, ils ont essuyé des coups de feu. Je crois me souvenir que l'expertise balistique parlera de 9 mm, c'est-à-dire de gros calibres utilisés par les gens du milieu.
Vous-même, comment vous retrouvez-vous à enquêter sur ce qui vient de se passer?
Vous savez, les faits divers, ça va vite. Hein. C'est une rubrique 24 heures sur 24 dans les journaux. Donc alerté sur ce qui s'était passé, je me suis rendu sur place pour essayer de voir ce qu'on pouvait récupérer. J'étais jeune journaliste, je débutais. Et j'avais l'impression d'un seul coup que, comme c'était Claude François, que c'était l'affaire de ma vie. Donc je me suis rendu à Dannemois, j'ai essayé de prendre contact avec lui. C'était très compliqué, c'était un personnage public qui avait des exigences dans sa vie, dans les gens qui l'entouraient. Hein. Moi, j'étais le petit journaliste qui débarquait là-dedans et j'étais plutôt transparent à ses yeux. Il a accepté de répondre à mes questions, mais j'ai bien compris qu'il était ailleurs, qu'il était préoccupé, qu'il était persuadé qu'on avait voulu l'assassiner. Je l'ai rencontré sur le pas de la porte de sa propriété. Il me répondait, j'ai eu le sentiment qu'il me répondait mécaniquement, quoi. Il était ailleurs. Mais on peut comprendre, hein. En pleine nuit, vous essuyez des balles de gros calibre, ça doit vous faire voir les choses différemment. Puis il y avait eu une course-poursuite, hein. Il était au volant. Il y avait eu une course-poursuite sur plusieurs dizaines de kilomètres, hein, avant qu'il arrive à Donnemois.
Alors une enquête est ouverte à la demande du tribunal de grande instance d'Évry. Elle est confiée à la gendarmerie. Que va-t-elle donner, cette enquête ?
Pas grand-chose. Pas grand-chose, puisque finalement, les gendarmes vont chercher des témoins, notamment une voiture qui est passée au même moment, qu'ils ne retrouveront pas. Personne ne revendique, personne ne comprend vraiment ce qui s'est passé. Puis le temps passe, et puis c'était pas la priorité de la gendarmerie, même si c'était Claude François. Il paraît qu'il y a eu des précédents. Moi, j'en connais qu'un, qui est l'envoi, le jet du cocktail Molotov sur l'entrée de son domicile, boulevard Exelmans à Paris. Mais c'est vrai qu'il se disait qu'on avait le sentiment qu'il était sur ses gardes en permanence. Alors, il était sûrement sur ses gardes en permanence par rapport à ses hordes de fans, ainsi de suite. Mais ce soir-là, moi, je vous dis, j'ai eu vraiment l'impression qu'il avait vraiment le sentiment qu'on avait voulu l'assassiner.
Le chanteur avait-il des ennemis ?
Pas que je sache, mais à mon avis, c'est des informations qui devaient être confidentielles si elles existent. On a un peu le sentiment quand même qu'on est dans un espèce de scénario catastrophe qui prend des proportions parce que c'est Claude François. Vous faites tirer du 9 mm sur votre voiture, je suis pas sûr qu'on aurait les mêmes précautions pour enquêter.
L'enquête finit par changer de main, elle est finalement confiée à la police judiciaire de Versailles. Et les choses vont s'accélérer complètement par hasard. Le 30 juin 1977, soit 5 jours après les faits, une violente bagarre éclate dans un restaurant de l'Essonne. Les forces de l'ordre interpellent un dénommé Pierre Dieudonné qui se trouve en possession d'une arme similaire à celle qui a tiré sur la voiture du chanteur. Or, Pierre Dieudonné est loin d'être un inconnu pour les policiers. Il n'est autre que le frère d'Émile Dieudonné, l'un des chefs historiques du redoutable gang de la banlieue sud.
Le gang de la banlieue sud, c'était une vraie entreprise du crime des gens du sud de la banlieue parisienne, spécialisée dans le braquage, dans l'attaque de fourgons, du vrai gros banditisme à la bonne époque. Il y avait beaucoup de gens du milieu qui y appartenaient, mais c'était des gens qui étaient surtout originaires de Vitry-sur-Seine, Villejuif, Ivry-sur-Seine, le sud du Val-de-Marne. L'enquête va, même par les policiers, va tourner court parce que le principal accusé a un alibi. On voit pas ce qu'il en serait, pourquoi, comment, il s'en serait pris à Claude François. C'était pas dans les habitudes, c'était pas des gens qui faisaient du rap, c'était pas des gens comme ça. C'était des bons vieux grands truands de la banlieue. On braque une banque, on braque un fourgon blindé.
Faute de preuves suffisantes, l'enquête est classée sans suite, mais Claude François n'en démord pas. Il est persuadé qu'on a tenté de le tuer.
Oui, tout à fait. Il y avait manifestement de sa part et de la part de son entourage une espèce de vraie crainte qu'on lui en voulait. Alors je sais pas, je connais pas le dossier de ce côté-là. Je ne sais pas s'il y a des preuves, s'il y a des enquêtes qui ont été faites, mais je ne crois pas. Mais lui, Claude François, était persuadé qu'on voulait cette nuit-là, qu'il avait failli passer de vie à trépas.
Alors malheureusement, le chanteur ne connaîtra jamais la vérité, puisqu'il meurt accidentellement moins d'un an plus tard. La vérité, on finira par l'apprendre plus de 30 ans plus tard. Avec ce coup de théâtre, nous sommes en 2009.
On finira par apprendre par des confidences d'un des membres du gang de la banlieue sud que ce soir-là, il n'était pas question de faire la peau de Claude François. Les gens du gang de la banlieue sud avaient fêté je ne sais trop quelle opération. Ils s'étaient lancés sur les routes et ils tiraient comme au Far West sur tout ce qui bougeait. Ils ont commencé à tirer sur la voiture de Claude François. Claude François a réagi en accélérant, en s'engageant dans une courte poursuite sur les routes du sud de l'Essonne. Les autres, ça les a excités, ils ont continué, quoi. Ils avaient juste repéré que c'était une grosse voiture, donc des gens qui avaient les moyens. Je crois même me souvenir que dans le témoignage que donne l'un des membres du gang de la banlieue sud, ils avaient voulu lui faire peur. J'aurais tendance à dire qu'il n'y avait pas eu mort d'homme. Bon, voilà, je pense que il n'y avait pas de quoi faire la révolution autour de ça, puisque finalement, la police avait fini par établir que Claude François, c'était pas contre lui qu'on lui en voulait, mais qu'on avait affaire à des espèces de pieds nickelés un soir de cuite. Bon, bien sûr, ils auraient pu le tuer, hein, je pense. Le destin a voulu qu'il en soit autrement.
Merci Christian Porte, à bientôt. Retrouvez d'autres épisodes des Crimes de la Route et l'ensemble de nos podcasts sur le site internet Vinci Autoroute et sur l'appli Radio Vinci Autoroute. Une collection disponible également sur YouTube, Deezer, Spotify et Apple Podcasts.